Alors passons à la deuxième partie maintenant, la question du genre du film et ce western inversé, ou plutôt voilà, ce film de convalescence dans un monde de western. D'abord un paradoxe qui n'est jamais vraiment mis en lumière directement, dit dans les dialogues dans le film, mais c'est quand même l'histoire de Native American qui joue aux cow-boys, alors que normalement les cow-boys sont ceux qui les ont exterminés. Donc il y a un paradoxe intéressant de vouloir prendre l'apparence, le rôle d'être de celui qui est du côté de le colon, quoi. Donc un élément déjà premier qui est paradoxal. Deuxième chose, d'abord visuel, enfin, ensuite visuellement, le film tient pas tellement du western parce qu'il y a assez peu de plans larges finalement. Alors là j'ai repris, j'ai trouvé, je ne les ai pas recomptés pour vous, mais je les ai trouvés dans un document. Celui qui avait compté avait dit qu'il y avait 20 plans d'ensemble. Les plans d'ensemble, c'est des plans où on voit tout le paysage, des plans très larges qui sont normalement la base du langage du western. Et il y a 120 gros plans, et les gros plans au contraire sont très rares dans le western. Alors à part dans le western tardif, dans le western spaghetti, de Sergio Leone, où là au contraire il joue beaucoup sur les gros plans, sinon il n'y a pas ça. Donc déjà esthétiquement, c'est comme s'il a filmé western mais qu'il utilise la grammaire opposée au western. Elle utilise le gros plan plutôt que le plan à large. Ensuite, d'une certaine manière, le personnage choisit de quitter le monde du western à la fin ou en partie. Il va vers le réel, vers sa famille. Et c'est le personnage de Lane, handicapé, qui reste dans le western, donc comme si c'était un monde voilà, du côté du handicap et de la maladie. Et enfin, les Amérindiens ici ne sont jamais traités comme, on ne dit jamais d'ailleurs, que ce sont les Indiens d'Amérique, etc. Mais on en voit des traces. On voit des traces de leur vraie vie et qui étaient développées dans le film précédent. C'est-à-dire, c'est un monde où voilà, on voit avec le supermarché, le travail du personnage, la nourriture. C'est un monde aussi des réserves, parfois il y a des pénuries d'eau, un système hospitalier à part, parfois pas très bon. Alors le personnage, en l'occurrence de Brady, a bénéficié de très bons soins parce qu'il faisait partie d'une association de rodéo, donc il cotisait à une société privée qui a fait qu'il a pu être soigné convenablement, mais sinon, avec, à l'intérieur du système, voilà, il n'aurait pas pu. Voilà. Et on voit l'alcoolisme quand même, l'alcoolisme et le jeu d'ailleurs, avec le père s'est dit à un moment, où est-ce que passe l'argent, il passe dans le jeu et dans l'alcool. Hein. Donc voilà, donc ça c'est des éléments qui sont omniprésents dans les réserves et qui sont montrés ici mais pas vraiment dénoncés, qui sont montrés par petites touches, mais on les voit un peu plus dans le film précédent. Je reviendrai dans une ouverture un peu sur cette question des Indiens, mais voilà, elle n'est pas centrale dans le récit du film en apparence, mais elle est quand même la toile de fond importante. Alors, la fameuse réserve de Pine Ridge, c'est une réserve qui se situe au Dakota du Sud, et c'est une réserve Sioux. Et le personnage de Brady est en fait un métis, puisque son père est canadien, d'où son nom, Jandro, et sa mère était Sioux. Donc, c'est une réserve qui a été créée en 89 et qui comporte 88% d'Amérindiens. C'est la 8e réserve des États-Unis en taille, mais c'est la plus pauvre. Comme je vous disais, comme dans toutes les réserves, il y a des problèmes de santé, de diabète, de dépression, d'alcoolisme. 90% de chômeurs. Donc on voit que quand Brady travaille, qui cherche du travail, c'est quand même quelque chose d'important et qui va un peu le décaler par rapport aux autres personnages aux personnes de son âge dans la réserve. Et enfin, 97% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Donc il y a vraiment un statut à part de ces réserves. Alors là, c'est trop petit sur la carte, mais si vous tapez le nom de la réserve sur Google Maps, vous verrez qu'à côté, il y a d'autres réserves qui viennent du démantèlement et qu'à chaque fois, il y a vraiment voilà, des réserves qui sont vraiment au plein cœur de l'Amérique et qui sont des zones à part. Alors, je vous ai mis des photos de la réserve aujourd'hui. Donc, ça a l'air très joli pour passer des vacances pourtant, même si le descriptif ne fait pas très envie. Mais vous voyez qu'il y a vraiment le rapport au paysage qui est très important, la montagne, l'eau, la rivière, les chevaux, etc. Une sorte de nature un peu préservée, un peu idyllique, parfaite pour le western. Alors, il reste dans le film les oripeaux du western. Alors, j'ai mis quelques images ici. La guitare, bon, il y a un western fameux qui s'appelle Johnny Guitar. Là, il y a toujours une scène de musique, au coin du feu. Dans les films de John Ford, on chante. C'est très important, la chanson, la guitare dans les westerns. Il y a aussi la selle, évidemment, qu'à un moment, il essaye de vendre. Il y a les ceintures. On a des plans sur les ceintures ou sur les petits foulards typiques du western. Donc, il y a le costume du western. le chapeau qui joue son rôle, hein, puisque au début du film, il n'a pas de chapeau, puis il va remettre son chapeau. Puis à un moment, son chapeau va tomber d'ailleurs. Donc, et puis il va mettre le chapeau sur la tête de Lane. Donc on peut raconter tout le film à partir du chapeau, hein, finalement. C'est vraiment un objet très très important. Et cette petite plume d'Indien qui sert comme ça, ce plan à un moment, c'est beau. Évidemment, il y a l'assaut du rodéo. Il y a les étoiles que lui met sa sœur et qui sont à la continuité de son tatouage d'étoiles, comme l'étoile du shérif, finalement, quelque chose comme ça, ou des États-Unis. Voilà. Et puis, bon, évidemment, les paysages et les chevaux. Donc, on voit bien que dans le film, travaille sur des signes qui sont des signes du western. Mais encore une fois, c'est un western d'après le western crépusculaire. Le western crépusculaire dans les années 70 jusqu'à 90 inclus. Et maintenant, c'est après ça. Qu'est-ce qu'il y a après le crépuscule? Ben, il reste les oripeaux, les traces. Et évidemment, un des éléments importants dans le western, c'est quand même le cheval. Et ici, le film s'appelle The Riders. The Riders, ça veut dire qu'il y a quelque chose à ride, c'est-à-dire ici, c'est le cheval qui est très important. Et qui va. Alors d'abord, vous avez noté que les chevaux sont nommés, sont presque de vrais personnages. On entend les noms, il y a Gus, Crystal, Apollo. Donc il y a une vraie personnification, en tout cas, on leur parle, on les touche, il y a une vraie tendresse par rapport aux chevaux. Et ils sont filmés exactement comme les êtres humains, c'est-à-dire ils ont le droit à des plans larges, ils ont le droit à des plans où ils sont seuls à l'image, et ils ont le droit même à des gros plans. À un moment, il y a plusieurs moments où on voit les yeux. Puis d'ailleurs, le film s'ouvre sur le rêve cauchemar de Brady, et on voit des gros plans de chevaux. Donc ça, vraiment, l'imaginaire du film est complètement autour de cet animal qui vraiment est là du début jusqu'à la fin du film. C'est vraiment encore plus que le cheval, que le chapeau, pardon, c'est encore plus le signe du film. Qu'est-ce que Brady va pouvoir faire, comment il va pouvoir interagir avec les chevaux. Et évidemment, s'il y a western, il y a virilité, mais ici, donc comme je vous disais, c'est plus un film de convalescence qu'un western de lutte des cow-boys et des indiens, par exemple. Et cette virilité, elle est malade. Cette virilité, elle est représentée par le père, finalement, le père. Plus ou moins alcoolique et joueur. Elle est représentée par les photos du passé que je vous ai mises là à gauche. Elle est représentée par aussi un aspect légendaire et mythique et d'admiration, de transmission aux jeunes. Donc vous voyez qu'il y a plusieurs personnages à qui Brady va transmettre quelque chose. Donc il y a son ami à qui il apprend à se tenir et puis à qui il donne le costume en disant « Ah, ça te va bien ». Il y a Lane aussi à qui il va donner des cours, en quelque sorte. C'est un peu l'histoire de comment on devient pédagogue. Peut-être que ça vous a intéressé d'une certaine manière. Et puis il y a la mythologie aussi quand il y a un enfant qui vient le voir et qui lui parle de son passé. Mais au fond, cette mythologie, elle est présente en visant Brady comme un cow-boy mythique, mais aussi surtout avec Lane qui était celui qui légendairement a fait cet exploit avec ce taureau ce jour-là, il a fait alors qu'il avait la main droite cassée, etc. Donc on a cette impression comme ça mythologique d'une virilité qui repose sur l'exploit, un exploit que nous spectateurs français aujourd'hui à Saint-Tour-l'Aumône, quand on les voit monter sur le taureau sans casque, on se dit oh là là, c'est pas très raisonnable tout ça, mais pour eux c'est la norme et c'est le jeu de cette virilité justement. C'est s'il n'y a pas de risque, il n'y a pas ça. On peut trouver ça absurde, mais c'est pas inintéressant, voilà, de montrer comment c'est une sorte de virilité malade qui est au travail ici, qui passe encore une fois par le modèle des pères. Et il y a ces scènes aussi où ils se battent. Il y en a au moins deux, hein, la scène du saloon et la scène où il n'arrête pas, il n'arrive pas à s'arrêter de se battre avec son copain à ce moment-là, qui montre bien sa frustration. Au fond, il ne peut pas être l'homme qu'il voudrait, l'homme qui monte à cheval, qui tient bien avec sa main, donc il se venge en étant un peu un homme, un mâle alpha, hein, en fait, c'est comme ça qu'on pourrait dire à ce moment-là. Et donc je vais vous montrer deux extraits de The Rider un peu en accéléré, un extrait de Misfit, qui est un film de John Huston, qui n'est pas vraiment un western, mais qui se passe aussi dans l'univers du western. Mais je vous en parle tout de suite après. On va d'abord regarder l'aspect justement des légendes et comment c'est filmé dans le film. Alors, je vais commenter en même temps, comme ça, voilà, ça va gagner du temps, parce que comme il y a un film à 5h10, il faut vraiment qu'on soit parti à 5h05 ou plus tard, voilà. Donc, d'abord, scène très, très classique du western, les confessions au coin du feu. C'est vraiment une scène qu'on trouve dans Stan John Ford, notamment. Les personnages sont vraiment caractérisés physiquement, leur costume, le chapeau, etc. leur parole, la parole de et la légende. La légende, c'est ce qui doit être lu, mais aussi ce qui doit être raconté. Il y a une phrase fameuse de l'homme qui tue Liberty Valance qui dit si la légende est plus belle que la réalité, print the legend, imprimez la légende et pas réalité. Donc ici, dans la façon dont c'est filmé, vous remarquez d'ailleurs, ça fait partie des scènes qui sont quasiment, à part voilà, ce plan-là et un plan un peu plus loin, quasiment en gros plan. Donc on est vraiment dans le visage des personnages, dans ce que fait cette légende à ses visages, qui reste ces masques de cow-boy. Voilà, on parle de Lane qui vient de s'installer, qu'il n'a pas vu. On raconte les différentes aventures. Et le personnage de Cal va se mettre à chanter, ce qui fait partie de la légende finalement. Il y a ce qu'on chante, c'est la parole qui va poursuivre et qui va continuer cette légende. Et dans le filmage, vous voyez que le fait d'utiliser juste la lumière du feu sur les visages et d'avoir le décor qui s'efface complètement, c'est vraiment devant la nuit, c'est vraiment l'aspect, il ne reste que ça, il ne reste que les visages devant le noir. Il y a ce moment de prière qui est intéressant, qui amène une part de spiritualité, qui n'est pas beaucoup présente dans le film, dans les dialogues, mais sans doute dans l'esprit du film, qui avait déjà un petit peu dans les chansons que mes frères m'ont apprises, dans l'extrait que je vous ai montré tout à l'heure. Il y avait une part aussi de spiritualité. Et il y a la prière, et c'est un des seuls moments où le personnage parle la langue Sioux. Donc c'est aussi intéressant ce moment de décalage où on va rentrer dans la documentation de comment on parle, comment ils parlent, comment on parle voilà, entre eux. Et les personnages chantent. Donc voilà, je vous passe. Et vous voyez que la réalisatrice, dans chacune des scènes, va vraiment chercher le visage de Brady en particulier. Donc c'est qu'est-ce que fait cette situation? Qu'est-ce que font ces légendes? Quel est le poids de ce mythe du cow-boy viril capable de monter un taureau, un cheval sauvage, etc.? Quel est le poids sur cet esprit et ce corps? Et dans le film, donc, les éléments intéressants ici, bon, il y a la guitare, comme j'ai parlé tout à l'heure, mais il y a aussi le chapeau. À certains moments, il y a aussi le couteau. Enfin, encore une fois, les oripeaux du western et du costume sont utilisés. Et vous voyez que c'est intéressant parce que Brady, lui, ici, a une capuche, alors que les autres ont un chapeau. Donc il y a cet aspect-là aussi sur comment le personnage, à la fin ici du premier acte, va peu à peu retrouver, vouloir remettre le costume, en fait. Voilà, je vais passer à l'extrait suivant, cette fois que je vais vous montrer en entier. Alors c'est un film qui est très connu aussi pour une scène qui est beaucoup plus tard dans le film, dans lequel Marilyn hurle sur les trois hommes qui sont les trois cow-boys à la virilité malade. Mon petit Cliff ici qu'on voit qui remonte, Clark Gable, et qui leur dit bah, vous êtes morts en fait. Elle leur hurle dessus, elle leur dit mais en fait vous êtes déjà morts, vous jouez à la mort, mais vous êtes déjà morts. Donc c'est une très 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 belle scène très connue qui est dans un plan très large, dans un paysage pour le coup de western, dans le désert. Et au fond, ce qu'elle apprend, puisque c'est elle qui apprend, c'est à reconnaître cette virilité malade dans ces hommes. Alors, par ailleurs, c'est un film très mortifère, presque un tombeau, puisque les trois acteurs principaux sont morts très très peu de temps après le tournage. Et Monty Cliff, et Clark Gable, et Marilyn Monroe, c'est leur dernier grand rôle à tous les trois. Donc il y a un côté voilà, très, encore une fois, mortifère, et on voit que cette arène, qui est un plaisir pour ceux qui font du rodéo, pour le personnage de Marilyn Monroe, qui est notre regard, ça va être un lieu de mort. Donc intéressant par rapport à The Rider, parce que finalement, on pourrait dire que Brady est à la fois Marilyn Monroe, avec un regard sur lui-même, et Monty Cliff, qui va et qui est entêté et qui continue. Alors, je ne vais pas vous montrer l'extrait précédent de The Rider, parce que bon, voilà, vous l'avez vu, mais c'était juste pour vous montrer un peu comment, au centre du film, le personnage était. Il y avait une sorte de montée dramatique autour de vouloir remonter sur un cheval, et en même temps, le retour des signes de la maladie, le fait qu'il vomisse, comment ça venait par le corps, il vomit, sa main se crispe, il tombe du cheval. Et donc, voilà, c'est intéressant, mais je pense que vous pouvez le faire très bien tout seul. Et puis, ça fait une meilleure transition avec Marilyn Monroe. Il y a une présence assez discrète des femmes dans le film, hein, qui ne sont pas très importantes, mais quand même, il y a en particulier le personnage de la sœur, qui va être un vrai lieu un nid douillet, en quelque sorte, que le père ne va pas lui offrir. Il y a un personnage de jeune fille, d'amie, qui va lui dire, bon, maintenant, il faut que tu passes à autre chose. Donc, et il y a les personnages de femmes qui s'occupent dans des métiers administratifs, la femme médecin ou la femme qui lui trouve un travail, qui vont l'aider à être dans la vraie vie. Donc les femmes, vous voyez, sont du côté du réel. Et il y en a une absente dont on a parlé tout à l'heure, qui est la mère, mais qui est présente. En tout cas, il y a son nom, il y a sa croix et il y a voilà, son tombeau, en quelque sorte.